Bonjour à tous, chers auditeurs. Je me présente, Evan, élève de terminale générale au lycée Félix Esclangon. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une édition spéciale réalisée par mes camarades du lycée et moi-même avec un projet d'émission radio s'intitulant « Au petit café ». Dans le cadre de notre cours d'enseignement moral et civique, nous devions réaliser une émission radio en partenariat avec Fréquence Mistral. Dans une ambiance décontractée, comme si nous étions à la cafétéria ou autour d'un café, je vais poser des questions à des lycéens, mes camarades ici à mes côtés, pour savoir ce qu'ils connaissent des personnes panthéonisées. À travers ces échanges, nous vous présenterons d'abord ce qu'est le Panthéon, puis nous présenterons deux grandes figures, Simone Veil et Robert Badinter, qui ont marqué l'histoire de la justice française et leur combat pour les valeurs de la République. De nombreuses personnes ne savent pas exactement ce qu'est le Panthéon. Marie et Winona vont pouvoir nous éclaircir sur le sujet en nous expliquant ce que c'est.
Quand on dit Panthéon, on imagine souvent ce grand bâtiment blanc situé à Paris, un peu solennel et impressionnant. Mais en réalité, on ne sait pas toujours ce que ça représente vraiment.
C'est exact. D'ailleurs, petit détail que peu de gens connaissent, le Panthéon n'a pas toujours été un lieu pour honorer les grandes personnes françaises. À l'origine, au XVIIIe siècle, c'était une église. Elle a été construite sous le règne de Louis XV, en 1758, pour remercier Sainte Geneviève d'avoir, selon la légende, protégé Paris d'une pandémie.
Donc à la base, rien à voir avec la République ou les grandes figures nationales.
C'est seulement après la Révolution française que le bâtiment change de fonction. Il devient ensuite un tombeau laïque destiné à accueillir les grands hommes dont la patrie est reconnaissante.
C'est marrant car ce bâtiment a changé plusieurs fois de fonction. Un coup église, un coup un monument républicain.
Oui, en fait son histoire suit les tensions politiques françaises.
Autre chose qu'on ignore souvent. Être panthéonisé, ce n'est pas automatique, ce n'est pas un concours de popularité. C'est une décision politique forte, prise par le président de la République, et parfois elle intervient très longtemps après la mort de la personne.
Il y a aussi une autre réalité, le Panthéon a surtout honoré des hommes. Il a fallu attendre 1995 pour qu'une femme y entre pour ses propres mérites, Marie Curie.
Et oui, avant elle, certaines femmes y reposaient, mais en tant qu'épouse. Aujourd'hui, un peu plus de 80 personnalités y sont honorées au total. Ce n'est pas énorme si on pense à toute l'histoire de France.
Justement, ça montre que ce lieu ne célèbre pas seulement les célébrités, mais des parcours considérés comme ayant marqué profondément la nation. C'est aussi un acte symbolique, car la panthéonisation n'est pas seulement un transfert de cercueil, c'est une cérémonie solennelle, souvent très médiatisée, avec un discours présidentiel. Une panthéonisation n'est pas seulement un hommage au passé, c'est aussi un message adressé au présent. On choisit de dire aux citoyens « voilà les valeurs que nous voulons mettre en avant à ce jour ». Aujourd'hui, on va parler d'une figure dont l'entrée au Panthéon ne relève pas seulement du souvenir, mais d'un message fort sur la justice, les droits humains et les valeurs de la République.
Merci Winona et Marie pour ces précisions sur le Panthéon, ce qui nous permet d'être mieux informés sur le sujet. Bonjour Louisella, alors premièrement, pouvez-vous présenter Robert Badinter ainsi que son parcours de vie, reconnu comme semé d'embûches ?
Pour vous expliquer qui c'est, déjà Robert Badinter est né le 30 mars 1928. Il est issu d'une famille originaire de Bessarabie, une famille juive et immigrée, la communauté juive étant une communauté grandement persécutée.
Mais attends, c'est où la Bessarabie ?
En fait, la Bessarabie, c'est un territoire qui appartenait à l'Empire russe. Et pour que tu la situes à peu près, aujourd'hui, elle correspond en majorité à la Moldavie, en Europe de l'Est. Pour continuer sur Robert Badinter, ses parents ont tous deux quitté leur pays d'origine avant de se rencontrer. Sa mère, dans sa jeunesse au début des années 1900, pour fuir les pogroms. Son père, lui, est parti dans les années 20, à cause du sang écoulé par les révolutions russes qui avaient lieu à cette époque. Chacun de ses parents a étudié en France, ils ont été naturalisés et ont changé de nom. Chifra s'est transformée en Charlotte et Samuel en Simon. Ensemble, ils élevèrent Claude et Robert à la française dans la petite bourgeoisie parisienne. À la maison, ils ne parlaient pas un mot de russe. Leur éducation était basée sur le fait de faire ses preuves devant tous et par exemple d'arriver premier de la classe, ce que les deux frères ont tous deux fait avec brio. En ajout de cela, Robert Badinter est allé dans de prestigieuses écoles et lycées, et c'est durant cette période de sa vie qu'il comprend le poids de l'antisémitisme et des tensions mondiales. Son adolescence bercée par la guerre l'a marqué à vie, et il dit encore se souvenir des mots passés à la radio sur le contexte belliqueux du monde. Il se souvient par exemple des mots prononcés par Daladier qui avait annoncé à la radio que la guerre avait été déclarée. C'est également à cette période qu'il avait dû partir se réfugier et se cacher sous une fausse identité, ses parents et sa grand-mère ayant été déportés puis exterminés. C'est son enfance, marquée par la guerre, l'occupation, mais également par son histoire familiale et les discours politiques à la maison, qui l'ont poussé à plus tard devenir un fervent défenseur des droits, un homme de la justice, celui dont on a tous un moment entendu parler.
Il est vrai que sa carrière est énormément reconnue, puisque pendant toute celle-ci, Badinter se consacre à la défense de la dignité humaine et à la transformation du système judiciaire français. Moins connu, il a d'abord commencé son parcours par une brillante carrière d'avocat, pendant laquelle il se fera connaître grâce à ses défenses remarquables dans des condamnations.
Pouvez-vous nous en citer ?
Bien sûr. Badinter a notamment été connu dans l'affaire de Patrick Henry, condamné pour le meurtre d'un enfant, à qui il évitera la peine capitale, soit la peine de mort.
Cependant, Badinter ne s'arrête pas à ça, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Badinter se lance ensuite dans la politique. Il devient ministre de la Justice sous la présidence de François Mitterrand et prendra son rôle à cœur puisqu'il sera renommé le grand réformateur.
Et donc quand va-t-il atteindre son objectif ?
En octobre 1981, il fera la proposition de réforme sur l'abolition de la peine de mort en France, qui sera votée. Et c'est donc cette année-là que Badinter réussit son combat. Mais il ne s'arrête pas à cette réforme. En effet, Badinter s'engage aussi à moderniser le système judiciaire en améliorant les conditions de détention, en réformant le droit pénal et en renforçant la garantie des libertés individuelles fondamentales. En somme, il transforme et adapte la justice pénale pour qu'elle soit plus humaine et moins vengeresse.
Pour finir, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces postes moins connus mais tout autant utiles ?
Il est vrai que Badinter est surtout connu pour son mandat en tant que ministre de la Justice, mais il est tout aussi intéressant de regarder ses activités à d'autres postes. De 1986 à 1995, Badinter est président du Conseil constitutionnel. À ce poste, il veillera à la conformité des lois vis-à-vis de la Constitution et des libertés fondamentales. Pour finir, Badinter s'engage à l'international dans les années 90, en participant à la commission d'arbitrage de la conférence de paix en Yougoslavie ou en travaillant dans des institutions européennes ou onusiennes.
Je vous remercie, Louise et Ella, pour cette intervention qui nous permet de mieux connaître cet homme de la justice française. Et nous allons dès à présent écouter des micro-trottoirs à propos de Robert Badinter.
On aimerait savoir si vous connaissez Badinter.
Oui.
Est-ce que vous savez ce qu'il a accompli dans sa vie ?
Alors, c'était des choses sur l'humanisme, mais dans le détail, non.
Est-ce que vous savez que Robert Badinter a été panthéonisé récemment ? Est-ce que vous savez ce qu'est la panthéonisation, au final ?
Bah, c'est quand on les enterre dans le panthéon.
Vu que vous savez un petit peu qui est Badinter et ce qu'il a effectué, est-ce que vous pensez être en accord avec sa panthéonisation ?
Alors là, j'ai pas vraiment d'avis, dans le sens où je connais pas suffisamment ce qu'il a effectué.
Il a déjà aboli la peine de mort et il a fait d'autres réformes pour, par exemple, les droits des homosexuels.
Où la question, c'était savoir si je suis d'accord avec sa panthéonisation. Je suis pas contre. Après, je peux pas forcément dire que je suis d'accord parce qu'il faudrait en mettre beaucoup, beaucoup sinon. Mais en tout cas, il le mérite.
D'ailleurs, il y a eu des publications récentes, c'est un formidable orateur. Ben, surtout, il a fait un discours extrêmement célèbre à propos de l'abolition de la peine de mort.
Il a récemment été panthéonisé, est-ce que vous savez en quoi ça consiste ?
La panthéonisation, pour dire ça, je ne saurais pas donner une définition vraiment exacte, mais c'est faire entrer à la fois dans l'histoire de France et de la reconnaissance de la République au titre d'un héros, pratiquement. Et surtout, la défense des valeurs républicaines.
Et est-ce que, par avis personnel, vous êtes d'accord avec cette panthéonisation ?
Oui, absolument, plutôt deux fois qu'une, c'est un personnage formidable. Regardez sur internet, ça vaut la peine d'aller voir ses discours, vous allez être très très impressionné. Le charisme de cet homme et voilà. Mais ça s'arrête pas à l'abolition de la peine de mort, c'est un grand avocat, il a défendu des grandes causes.
Badinter, c'est un abolitionniste, quelqu'un qui s'est battu comme Victor Hugo en son temps pour l'abolition de la peine de mort et qui a obtenu gain de cause, en tout cas en France, mais c'est un combat universel, donc il est encore perdu pour l'instant.
Récemment, il a été panthéonisé. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Bien sûr, bah justement pour ce combat en faveur de l'abolition de la peine de mort. Et à ce propos, je pense qu'il est utile de rappeler, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais deux arguments, il doit y en avoir d'autres, mais deux arguments en faveur de cette abolition. Le premier, c'est qu'il y a toujours le risque de tuer des innocents. Et le deuxième, c'est aussi que certains innocents avouent. Parfois. Donc on peut tuer des innocents qui ont déclaré être coupables et qui ne sont pas coupables, qui avouent pour différentes raisons, soit des interrogatoires violents ou des raisons psychologiques. Voilà, donc il y a premièrement des innocents et deuxièmement des gens qui peuvent avouer sans être coupables.
Vous pourriez définir ce que c'est que la panthéonisation ?
Bah, la panthéonisation, c'est d'être enterré au milieu des grandes femmes et des grands hommes qui ont défendu la République.
Et du coup, vous êtes plutôt d'accord pour sa panthéonisation ?
Évidemment.
Bonjour Elios, qu'est-ce que tu as retenu des micro-trottoirs ?
Robert Badinter est un très bon orateur, est un grand avocat. Il s'est notamment battu pour l'abolition de la peine de mort en France, car on ne peut jamais être sûr que la personne condamnée est vraiment coupable, mais il s'est aussi battu pour d'autres causes. J'ai aussi retenu que la panthéonisation consiste à être enterré auprès des grandes femmes et des grands hommes qui ont défendu la République. On comprend donc que Robert Badinter mérite amplement sa panthéonisation.
Merci Elios, et maintenant passons à une autre table pour en apprendre encore plus sur Robert Badinter. Bonjour Nouré Camille, pouvez-vous nous présenter les actions ainsi que les combats qu'il a pu mener durant sa vie?
Le combat le plus connu de Robert Badinter reste son combat pour l'abolition de la peine de mort. Durant sa carrière d'avocat, il a accepté de défendre plusieurs accusés dont les crimes valaient la peine de mort. Il a réussi à faire éviter la guillotine à 5 d'entre eux. L'une de ses premières actions, en tant que garde des Sceaux, sera de demander l'abolition de la peine de mort. Et plus largement, il militera pour une abolition internationale de la peine de mort. En plus de cela, il a également défendu les droits des personnes homosexuelles. Dans les années où il sera garde des Sceaux, plusieurs lois discriminatoires concernant l'homosexualité seront abrogées. Badinter a également lutté contre l'antisémitisme tout au long de sa carrière, considérant qu'il s'agit d'un devoir de mémoire après la Seconde Guerre mondiale et profondément marqué par les assassinats des membres de sa famille. Malgré ce combat, une seule loi portera le nom de Badinter, très peu connue du grand public, qui tend à l'amélioration des conditions d'indemnisation des victimes d'accidents de la route.
Comme l'ont dit Winona et Marie, le Panthéon rend hommage aux grandes personnalités qui ont marqué durablement l'histoire et les inscrit dans la mémoire nationale, car ils ont défendu les valeurs de la République. Par rapport à ce qu'a dit Nour, on peut dire que Robert Badinter, toute sa vie, il a défendu les valeurs humanistes. Il était très engagé politiquement et moralement. Il s'est notamment battu pour la justice, l'état de droit, la dignité humaine ou encore les droits de l'homme. Ses luttes actives contre la peine de mort, l'inhumanité des prisons, l'injustice, l'homophobie, le racisme ou encore l'antisémitisme illustrent son courage politique et son engagement auprès des valeurs républicaines.
D'ailleurs, même le président Emmanuel Macron l'a reconnu lors de l'hommage national à Badinter en 2024.
Oui, il a dit que son nom devait s'inscrire aux côtés de ceux qui ont fait progresser l'humanité et la France. Robert Badinter est donc une figure emblématique de la République qui mérite complètement sa place au Panthéon.
Merci Camille et Nour pour ces explications.
Illumine de ses rayons.
Nous allons dès maintenant parler de Simone Veil, monument français de la justice. Et je retrouve alors Elios qui va nous parler de son parcours de vie.
Simone Veil, née Simone Jacob le 13 juillet 1927 à Nice, grandit dans une famille juive laïque originaire de Lorraine. Son père, André Jacob, est architecte et sa mère, Yvonne, est femme au foyer. Elle a deux sœurs, Madeleine et Denise, ainsi qu'un frère, Jean. En 1929, la crise économique oblige la famille à déménager dans un appartement plus petit. Simone poursuit une scolarité brillante au lycée des jeunes filles de Nice. Après la défaite de la France en 1940, les lois antisémites du régime de Vichy frappent sa famille. Son père perd le droit d'exercer son métier, et en 1942, la région passe sous occupation italienne, puis sous occupation allemande en 1943. Cela aggrave le danger pour les Juifs. Le 30 mars 1944, Simone, alors âgée de 16 ans et sur le point de passer son baccalauréat, se fait arrêter par la Gestapo. Sa mère, son frère et sa sœur sont également arrêtés. Ils sont d'abord envoyés au camp de Drancy, puis déportés à Auschwitz-Birkenau par le convoi du 13 avril 1944. À son arrivée à Auschwitz, Simone ment sur son âge pour éviter la sélection vers la mort et elle est affectée aux travaux forcés. Elle est ensuite transférée au camp de Bobrek, annexe du camp d'Auschwitz. En janvier 1945, face à l'avancée de l'armée rouge, elle est contrainte à une marche vers la mort jusqu'à Gliwice, puis elle est transférée dans les camps de Dora et enfin de Bergen-Belsen. Sa mère meurt du typhus en mars 1945 à Bergen-Belsen. Simone et sa sœur Madeleine sont libérées en avril 1945 par les troupes britanniques. Son père et son frère ne reviendront pas des camps. Sa sœur Denise, qui s'était engagée dans la résistance et qui a été déportée à Ravensbrück, survit et rentre en France. Et Simone rentre en France en mai 1945, profondément marquée par la déportation. Simone Veil reprend ses études, puis elle devient magistrate et s'engage dans la politique.
Je te remercie, Elios, pour nous avoir expliqué la vie de Simone Veil, qui est passée par des hauts et des bas. Et d'ailleurs, nous allons de suite écouter un micro-trottoir à son sujet. Bonjour, nous sommes des lycéens du lycée Félix Eslongon et aujourd'hui on va vous poser quelques questions sur la panthéonisation de Simone Veil et de sa vie. Donc Simone Veil, ancienne rescapée d'Auschwitz, pensez-vous que son passé a influencé ses combats ?
Bien sûr, Simone Veil, c'est une des rares survivantes dans sa famille et ça a été forcément déterminant dans sa vie, dans son arrivée à l'âge adulte et ensuite ses combats, son militantisme, son engagement, ce qu'elle a fait à la fois pour les femmes et pour l'Europe, pour l'Union européenne et en général.
Que pensez-vous de sa panthéonisation à Simone Veil ?
La panthéonisation de Simone Veil, elle a été faite il y a quelques années, il me semble déjà. Mm-hmm. Et c'est une évidence, quoi. Que Simone Veil est une grande femme, qu'au Panthéon, il nous faut des grandes femmes. Il n'y en avait pas, et Simone Veil est la plus grande d'entre toutes.
Donc, selon vous, c'est amplement mérité ?
C'est amplement mérité, bien sûr.
Je vous remercie pour vos réponses.
Au revoir.
Au jour d'aujourd'hui, il y a 7 femmes pour 75 hommes qui reposent au Panthéon. Que pensez-vous de cette surreprésentation des hommes encore aujourd'hui au sein du Panthéon ?
Écoutez, je trouve ça extrêmement sexiste. La femme devrait avoir beaucoup plus de place au Panthéon.
Écoutez, je pense que c'est inégal. Il aurait été valorisant pour la femme qu'elle soit représentée autant que la gente masculine.
Que pensez-vous de la panthéonisation de Simone Veil ? Selon vous, est-ce mérité ?
Absolument. C'est une grande dame. Elle a apporté beaucoup aux femmes de notre génération et a permis cette loi sur la possibilité de se faire avorter, ce qui a été un grand pas en avant.
Je pense que c'est une très bonne chose et que c'est mérité, mais je ne suis pas sûre qu'elle était très à cheval là-dessus et que c'était son principal intérêt dans ses actions.
C'est une bonne chose parce que non seulement elle sort d'une guerre, d'une atroce guerre, quoi, elle en ressort. Et en plus, après, elle milite pour toutes les femmes par rapport à l'IVG.
Selon vous, est-ce mérité ?
Très, méritée.
Il y a 7 femmes pour 75 hommes qui reposent au Panthéon. Que pensez-vous de cette surreprésentation des hommes encore aujourd'hui ?
Je pense que c'est le reflet de notre société qui a toujours fait en sorte que les femmes soient privées donc d'éducation et de moyens de s'accomplir. Je pense que de cela résulte le fait qu'il y a moins de femmes au Panthéon, le fait qu'elles aient moins de possibilités d'accès aux instances et professions intellectuelles.
Alors, selon moi, la panthéonisation de Simone Veil, c'est quand même un symbole français, un symbole de notre patrie, parce qu'elle a tout simplement apporté énormément au sein de notre pays, notamment pour les femmes, avec sa mobilisation et la loi qui est passée pour l'IVG, et aussi après son passé totalement miraculeux, où elle explique son aventure avec sa famille au sein du camp d'extermination d'Auschwitz, Birkenau. C'est tout simplement irréel qu'une personne ait pu sortir rescapée d'un camp comme ça et qu'en plus, dans le futur, elle continue à être tant importante pour la France.
Du coup, était-ce mérité cette panthéonisation ?
Totalement, totalement. De plus que c'est une femme, les femmes ne sont pas mises en avant au Panthéon. Je trouve ça tout simplement exceptionnel qu'une femme comme Simone Veil, par sa grandeur, soit panthéonisée. C'est tout simplement exceptionnel.
Alors Elios, qu'est-ce que tu en as retenu ?
Simone Veil est une des rares personnes de sa famille qui a survécu au camp de concentration, et cela a influencé sa vie et ses combats. Sa panthéonisation est amplement méritée avec tout ce qu'elle a fait, comme notamment la loi sur l'avortement. Et j'ai aussi retenu que les femmes sont très peu représentées au Panthéon, alors qu'elles mériteraient de l'être beaucoup plus.
Merci Elios, et dès maintenant passons à une autre étape pour en apprendre plus sur Simone Veil, et nous retrouvons ici Lily qui va nous expliquer les combats qu'elle a menés durant sa vie.
Simone Veil a eu 2 combats importants. D'abord, dans le droit des femmes, c'est grâce à elle que la loi Veil a été adoptée. Ça a été un tournant révolutionnaire dans l'histoire. Elle s'est également impliquée dans la mémoire de la Shoah.
Et quelle loi Simone Veil a-t-elle proposée ?
En 1974, elle était ministre de la Santé. Et le 26 novembre, elle fait un discours sur l'IVG, l'interruption volontaire de la grossesse, au Parlement. Elle y défend la légalisation de l'avortement derrière 2 grandes idées. Le but principal n'est pas de banaliser l'avortement, mais de le rendre plus sûr, c'est-à-dire avec un encadrement médical, car sinon cela pouvait être dangereux. Elle veut protéger avant tout la santé des femmes, et sa loi est avant tout sanitaire et humanitaire, mais pas d'ordre moral. À travers sa loi, elle veut également la reconnaissance des droits des femmes. Elle a raison, une femme doit avoir le droit de choisir d'avorter ou non, car elle peut être face à une grossesse non désirée. C'est remarquable ce qu'elle a fait. Elle a eu énormément de courage et de calme, car elle était face à un parlement rempli d'hommes et de remarques sexistes. Son discours a également eu des répercussions positives en aidant à la libération de la parole autour des droits des femmes. La loi qui légalise l'avortement sera promulguée le 17 janvier 1975.
Tu as dit que l'avortement pouvait être dangereux avant 1975, mais pourquoi ?
Les femmes qui voulaient avorter devaient le faire dans la clandestinité avec l'aide de faiseuses d'anges, mais les conditions étaient très dangereuses et pouvaient causer de graves séquelles sur la santé des femmes.
Comment Simone Veil a-t-elle participé à la transmission de la mémoire de la Shoah ?
En étant elle-même rescapée d'Auschwitz, Simone Veil a eu une grande implication dans la mémoire de la Shoah. Elle a fait des discours pour parler de son expérience, pour témoigner de l'horreur des déportations et pour que toutes les générations connaissent l'histoire. Elle a également été dans les écoles pour lutter contre l'oubli et contre l'antisémitisme, en faisant passer le message de tirer des leçons du passé. Elle est devenue première présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et elle a organisé plusieurs commémorations. À travers ce rôle, elle a défendu les droits humains, la tolérance et la justice.
Pourquoi dit-on que Simone Veil avait une vie très engagée ?
Elle a passé une partie de sa vie à transmettre la mémoire de la Shoah et à défendre les droits humains et féminins pour qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous se serve du passé comme une leçon de vie.
Merci Lily d'avoir répondu à mes questions et maintenant nous retournons vers Camille qui va nous présenter une personne que nous aimerions voir au Panthéon. Alors Camille, si tu devais choisir une personne à panthéoniser, morte ou vivante, ça serait qui ?
Moi je dirais Gisèle Halimi. C'est une femme incroyable. C'est une avocate et une militante féministe et anticolonialiste franco-tunisienne. Née en 1927 et morte en 2020. Elle a notamment été députée sous François Mitterrand et même ambassadrice de la France à l'UNESCO.
D'accord, mais elle s'est battue pour quoi exactement ?
Elle a lutté pour la légalisation de l'avortement, la dépénalisation de l'homosexualité et la criminalisation du viol. Elle a vraiment fait avancer le droit des femmes. Elle a également défendu des militants en faveur de l'indépendance de l'Algérie et a dénoncé la torture utilisée par l'armée française à cette période. Toute sa vie, elle s'est battue pour la justice, l'égalité et la liberté.
Du coup, tu penses qu'elle aurait sa place au Panthéon ?
Oui, totalement. Son parcours et ses combats en font une figure majeure de l'histoire contemporaine. Et elle mérite vraiment d'être honorée au Panthéon.
Merci Camille de nous avoir présenté Gisèle Halimi et d'avoir expliqué les raisons de pourquoi elle devait être panthéonisée, en espérant que dans le futur ce soit réalisé. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission Au Petit Café. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que cette émission vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ces grandes figures de la justice française. Nous avons été très heureux de réaliser ce projet dans le cadre de notre cours d'EMC avec Fréquence Mistral et nous remercions aussi notre lycée de nous avoir permis de vivre cette expérience. Merci de nous avoir écoutés et peut-être à une prochaine fois sur Fréquence Mistral pour une nouvelle émission. Et l'équipe de Au Petit Café vous souhaite une excellente journée et...
À bientôt!